Bienvenue dans Starting Block, l'émission du réseau Radio Campus France qui met à l'honneur les scènes locales. Cette semaine, Radio Campus Angers est parti à la rencontre de Zenzile, un des groupes angevins parmi les plus anciens et les plus prolifiques, avec au compteur 20 ans d'existence, une dizaine d'albums et de nombreuses collaborations. Considéré comme un des fers de lance de la scène dub française, il termine actuellement une résidence au Quai, cet imposant théâtre au bord de la Maine, à l'issue de laquelle ils présenteront en avant-première leur nouvelle création, Elements, avant un album et une tournée début 2017.
J'avais croisé moi certains d'entre vous brièvement en 2014, pendant Premier Plan, où vous présentiez votre projet de ciné-concert Berlin, donc qui s'appuyait sur un documentaire de Walter Ruttmann, qui était sorti en 1927, que vous avez mis en musique. L'avant-première avait eu lieu au Chabada, on s'était vu juste avant. Depuis, il y a eu l'album, la tournée. Comment ça s'est passé ces deux dernières années?
Comme tu l'as très bien dit, on a fait donc une sortie d'atelier, on a rejoué Berlin la deuxième fois à la Collégiale. Et en fait, on l'a produit sur scène une grosse vingtaine de fois, on va dire 25 représentations, en 2 ans. Ce qui était à peu près ce qu'on avait fait aussi sur le ciné-concert précédent du cabinet du docteur Caligari. Donc on est plutôt satisfait du nombre de prestats qu'on a fait, vu que c'est de toute façon des créations qui nous prennent du temps. En l'occurrence pour les ciné-concerts, ça s'est fait plus qu'un gros trimestre. Donc vu l'implication que ça donne, on préfère avoir le choix de la jouer plusieurs fois. À chaque fois, ça a été vendu comme une date unique, puisque c'est en partenariat avec Premier Plan. Mais du coup, on s'est toujours proposé de les proposer aux tourneurs et aux personnes qui voulaient le faire tourner. Donc là, ça a marché. La grosse différence avec Caligari sur Berlin, c'est qu'on a fait un album de la bande originale. Ce qu'on n'avait pas fait à Caligari, on l'avait regretté. Donc là, ce coup-ci, on avait fait les choses bien, on va dire.
Il y a eu des arrangements qui ont été faits entre la version ciné-concert et la version album?
Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour le live, ça correspondait à la durée du film. Et évidemment, quand on l'écoute sur album, il n'y a pas les images. Donc on avait quelques longueurs qu'on avait dû adapter par rapport au film. Donc d'une manière générale, on a réduit les structures des morceaux pour le disque. Certains plus que d'autres. Et je crois qu'il y a, il y a des morceaux aussi qui ne sont pas sur le disque, évidemment pour la longueur. Le film faisant 1h10, le disque on a dû le faire en 50 minutes en gros. Donc on a fait des choix.
C'est important, des projets un peu hybrides comme Berlin, comme Dr Caligari ou comme Elements que vous allez proposer pour aller chercher autre chose que la musique, que le processus d'enregistrement d'un album classique?
Oui, exactement comme tu le dis, c'est pour nous donner un peu d'air et puis de changer un peu la routine, parce que jusque-là, on avait un schéma relativement classique. On était en répète, on cherchait des nouvelles idées. On enregistrait, on rentre en studio, puis après il y avait la tournée afférente. Pour le coup, et puis il y avait aussi toutes les combinaisons avec Jamika, avec les invités. Donc les ciné-concerts, en tout cas Berlin, nous, ça nous a permis de se retrouver à 5 musiciens, de faire un projet 100% instrumental, ce sur quoi on courait un petit peu après depuis un moment. Donc ça, on retrouvait un peu les fondamentaux de Zenzile du début, et qui commençait à dater parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé en structure purement instrumentale. Et puis là, sur Element, en fait, on a un peu synthétisé cette histoire du ciné-concert et des images sur un projet un peu hybride où en fait ça combine, on va dire, le Zenzile plus classique pour le live, mais où on a voulu rajouter des images parce que ça nous avait bien plu. Ça, c'est vraiment la nouveauté. On n'avait jamais travaillé avec du visuel derrière, à part sur le ciné-concert. Donc là, il y a Titi et Julien qui bossent respectivement sur les lumières et sur la créa visuelle et qui habillent la scène. Et sur Element, en plus, on fait vraiment 100% de création musique originale. En fait, tout le nouveau set, il est entièrement nouveau, en fait. Donc c'est un peu en alliant, on aimait bien l'habillage en fait de jouer sur le ciné-concert en illustrant des images. Là c'est pas exactement ça parce que les images sont vachement plus libres, elles sont plus là graphiquement, on va dire esthétiquement. Et aussi pendant le concert il n'y a pas des images tout le temps, donc on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc voilà, mais on voulait notamment changer un peu la scéno de nos concerts habituels. Et puis on a intégré aussi Zaka, qui est une nouvelle personne au sein du groupe, à l'issue du projet, et qui chante.
Comment ça s'est fait la mise en image justement? Parce que sur un ciné-concert, on adapte la musique aux images qui défilent, mais là, quand c'est de la création, c'est la musique qui vient d'abord, c'est les images que vous adaptez après ou...
C'est exactement ça. Là sur Element, les morceaux sont là avant. Et Julien et Titi ont bossé en fonction des thématiques. Alors il y avait celles qu'on avait envoyées, c'était les éléments, mais ça reste très 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 libre. Ça, c'est vraiment le concept de base pour un petit peu situer le projet avec un titre. Donc ça, c'était aussi une demande de nos partenaires un peu pour baliser le propos. Là, on a donné les morceaux et puis après Julien il a pris ceux qui l'inspiraient le plus pour les mettre en image. Après, notre cahier des charges, c'est qu'on ne voulait pas quelque chose de trop clippé, on voulait quelque chose qui reste abstrait, esthétique, qui tourne autour des éléments. Donc hein, il y a de toute façon forcément l'air, la terre, le feu et l'eau. Et puis on voulait quelque chose d'assez poétique, d'assez léger, si possible, pas trop dans des techniques trop froides, on va dire, trop images de synthèse. On utilise quand même, enfin il utilise quand même des logiciels et de la technologie moderne. Et on essaye vraiment d'associer un peu les deux, quoi. On voulait pas trop d'images un peu jeux vidéo et tout ça. Donc, et puis aussi, évidemment, à travailler images et lumière ensemble, puisqu'il y a quand même des contingences techniques qui font que la projection avec le VP étant pas si puissante que ça, faut pouvoir rester dans une ambiance... cosy, mais tout en continuant à voir les musiciens et que les images soient bien définies en fait.
Alors tu as évoqué les origines instrumentales de Zenzile. J'ai lu quelque part que si vous aviez démarré en instrumental, c'est que vous aviez essayé avec plusieurs chanteurs et que tout simplement ça marchait pas et que vous étiez parti là-bas. Alors je sais pas si c'est...
Ah, c'est presque ça. C'est qu'en fait avant Zenzile, on avait pour la plupart tous fait des groupes avant, où on avait eu des chanteurs. Alors après c'est un peu méchant, mais en fait on avait été tous traumatisés par les chanteurs de l'époque qui étaient jamais prêts, qui étaient on m'entend pas assez, mes textes ils sont pas prêts. Donc en fait c'est pas du tout qu'on voulait pas de chanteurs, mais comme on n'avait pas trouvé chaussure à notre pied, en fait on a décidé de se lancer, de faire de la musique pour de la musique. C'est dans ce sens là où on a vraiment suivi le chemin du dub, où ça peut se passer de chant en direct, vu que c'est vraiment une technique de studio. Après, en fait, en même temps où on disait ça, très vite, on a collaboré avec des chanteurs, des chanteuses, parce que sur le premier album de Zenzile, Sachem doit avoir 4 ou 5 intervenants différents, qui étaient des voix féminines. Ça, c'était aussi le changement. Et en fait, qu'on comprenait qu'ils venaient faire des sessions en studio, et après, nous, on produisait les voix comme ça. C'est aussi comme ça qu'on a rencontré Jamika. Mais c'est vrai que ce qu'on voulait pas, c'est être freiné dans un processus de création, être obligé de faire des chansons plus classiques et d'attendre ça pour finaliser des morceaux, puisque le but du groupe, c'était vraiment de faire de la musique un peu au kilomètre et de pouvoir bidouiller en studio, en fait. Donc c'était vraiment un principe un peu expérimental et de technique du dub à proprement parler, qui était on fait de la musique et après on va la bidouiller en studio en fait.
Vous aviez des groupes avant, tu l'as évoqué, elle ressemblait à quoi la scène locale à ce moment-là? Parce que ça fait 20 ans maintenant.
Exactement, et ben la scène locale elle était surtout habitée par du rock, ce qu'on disait du rock alternatif, mais c'était surtout une scène rock à Angers, pour autant que je m'en souvienne, même si le plus vieux groupe encore en activité c'est l'Audio. Donc qui font plutôt une musique plutôt world, quoi. Ils ont été estampillés comme ça, mais ils ont plusieurs facettes. Mais à l'époque, outre l'Audio, il y avait les Tugs, qui était quand même un groupe phare de la scène angevine, parce qu'ils s'étaient aussi beaucoup exportés. C'était vraiment la vitrine musicale de la ville à l'extérieur. Après, tu avais pléthore de groupes, hein. Tu avais des groupes comme les Happy Drivers, tu avais les Dirty Hands, et les Spécimens. Il y avait quand même un paquet de groupes qui tournaient, qui avaient leur petite notoriété. On va dire que nous, à l'époque, par rapport à une ville comme Nantes, Angers était plutôt assez prolixe, quoi. Et il y avait beaucoup de groupes, et des groupes notamment qui avaient une production musicale, qui se faisaient des disques et qui tournaient.
On se retrouve après un morceau issu de votre troisième album studio, Totem. Le titre, c'est Sampling DNA.
preservatives, glassy bag foldouts, imitations of funk.
De se tourner vers le dub, alors c'est les influences que vous aviez en commun ou c'était une volonté de partir vers une autre direction?
C'est les deux. En fait, par rapport au groupe, c'est peut-être le style où on retrouvait un peu toutes les influences communes se retrouvaient autour de ça. Alors dub avec extension avec le reggae, hein, puis des choses plus rythmées parce qu'après se sont greffées aussi là-dessus plus une dimension des musiques africaines. Je sais que Vince est super fan. Raggy, lui, il était plutôt jazz, enfin tout ça s'assimilait dans un petit creuset en ayant aussi le rock en commun et puis le reggae. Et en fait nous on s'est quand même tourné vers ça parce que je pense que c'était une volonté pour te resituer l'histoire. Je crois que Kurt Cobain il se suicide je sais plus en 95 et je pense que quelque part c'est un peu la fin de tout ce qui était un peu très positif dans le rock. Ça a mis quand même un coup, donc tout ce qu'on en était, on voulait revenir à quelque chose de peut-être un peu plus chaud. Voilà, donc en même temps, on était aussi fan de musique, de reggae et tout ça. Et je crois que c'est aussi par ce biais-là qu'on s'est orienté vers ça. Vraiment une volonté de sortir un peu la tête du guidon et puis un côté un peu mortifère qui était malheureusement qui était en cours à l'époque, quoi. Parce parce que moi j'étais, on a tous écouté Nirvana, et c'est vrai que quand tu considères, sans être complètement aficionado du groupe, mais quand tu vois un mec qui a un gros succès et puis qui finit entre quatre planches, tu dis merde, le rock ça mène pas très très loin, c'est pas si fun que ça. Donc je pense qu'il y avait aussi une envie de changer d'état d'esprit et de musique, et voilà, d'aller vers quelque chose de plus léger, quoi.
Et il y avait une scène dub française déjà mise en place alors? Parce que nous, pour notre génération, si on écoute du dub, on part vers Hightone, on part vers Zenzile, mais à l'époque, il y avait déjà des choses qui marchaient bien.
Alors, on va dire que quand on a commencé, la génération spontanée un peu du dub en France, c'était Improvisateur Dub, si loin que je me souvienne. Il y avait Hightone à Lyon, Improvisateur à Bordeaux. Tu vas voir ASSE qui était les premiers groupes de Brain Damage, et il y avait nous. Et c'est vrai, et après ça a été très vite. Après il y a eu d'autres groupes, il y a aussi Ezekiel, mais après qu'est-ce qu'on met dans le dub ou pas. On va dire que le noyau au début, sans se concerter, il y avait vraiment, je pense, c'était ces 3-4 groupes-là qui étaient préexistants au début, quoi. Un pro à Bordeaux, Zenzile à Angers, Hightone à Lyon et ASSE à Saint-Etienne. Et puis il y avait aussi une grosse scène dans le nord de la France, à Lille notamment, parce qu'ils ont toujours été très très dumb, mais eux c'était plus tourné vers la scène anglaise, stepper plus machine. Avec des groupes comme les Ten de Beyonce et tout ça, qui était un groupe qui était là dès le début quasiment, et qu'on a rencontré au fur et à mesure en fait des concerts.
Et ça a bien marché directement alors, parce que je suppose que c'était une musique de niche à l'époque, peut-être plus que celle-là aujourd'hui.
Bah ouais, je pense que c'est toujours une musique de niche. Ça a très bien pris parce qu'il y a aussi, en parallèle, il y avait quand même une très forte scène reggae. Alors moi, artistiquement, c'est quand même pas la même chose, mais tu peux pas enlever le fait que le dub c'est lié au reggae. Après, dans la scène française et d'une manière générale, même s'il y a des gens qui diront que le dub ça se fait de telle ou telle manière, nous c'était quand même plus facile de mettre les éléments qui nous plaisaient musicalement dans le dub. C'était un champ d'expérimentation plus simple que de faire du reggae stricto sensu. Voilà, à l'époque, faut se dire, il y avait pléthore de groupes de reggae français qui cartonnaient. Hein. Je sais pas, K2 et Aridim, tu devais avoir, Sinse Emilia, enfin t'en avais une dizaine de groupes qui tournaient autour de ça. Alors après nous c'était pas forcément trop notre tasse de thé artistiquement, mais on a beaucoup tourné avec eux. Donc en fait nous on était le groupe de dub, on faisait les premières parties, mais ça nous permettait de jouer dans des salles quand même où il y avait en général tout le temps entre 800 et 1000 personnes, donc on s'est fait aussi connaître comme ça. Et le terrain était propice. Du coup, on a aussi permis à des gens qui venaient pour du reggae un peu plus large de se frotter à un genre un peu plus de niche qui était le dub. Et toute la sauce, elle a pris comme ça, en fait. Et après, les groupes de dub, il a commencé à y avoir des soirées vraiment dédiées à ça, et ça a créé aussi le public qui va avec la scène.
Ça change votre manière de composer selon la personne que vous avez au chant. Donc il y a eu Jamika pendant quelques années, après il y a eu Jerry, là vous avez une nouvelle chanteuse. Vous adaptez un peu votre style musical aux voix que vous avez?
Je te dirais que oui, c'est comment on appelle ça, c'est un ping-pong, quoi. Maintenant, ce serait mentir que de dire quand même le contraire, parce que les guests, que ce soit Jamika, Jerry ou Zaka, ils viennent alors qu'ils intègrent le groupe quand une partie de la création est déjà faite ou on bosse ensemble. Donc de toute façon, il y a quand même un échange. Mais on a aussi un groupe qui a 20 ans, donc des manières de fonctionner, des manières de composer. On n'a jamais remis ça vraiment complètement à plat. Après, peut-être sur le détail, des choses qui seraient un peu plus intelligentes que ce qu'on fait des fois, c'est le problème sur lequel on se retrouve confronté, c'est qu'on a fait des choses au niveau des tessitures. Toi, tu composes dans telle tonalité, tu te rends compte que ça ne correspond pas à la tessiture du chanteur ou de la chanteuse. Donc des fois, il faut changer ça. Donc le mieux, c'est quand même de composer le plus possible à la base ensemble pour que tu puisses orienter les morceaux vers ce qui est le plus évident à faire pour le chanteur ou la chanteuse. Mais après ça dépend aussi des capacités des uns et des autres à s'adapter. En l'occurrence, Zaka, elle a aussi un background conséquent en tant que chanteuse, donc ça lui pose pas trop de problèmes, quoi.
Et la rencontre s'est faite comment, justement, avec Zaka ?
Eh bien, c'est Vince, comme souvent, qui nous a suggéré le prénom de Zaka pour une nouvelle collaboration. Et nous, on se connaissait avec Zaka parce que c'est la fille de musiciens d'Angers, notamment de Nico, qui était le premier batteur de l'Ojo, avec lequel on a tourné. Et Zaka, en fait, donc il y a 20 ans, au début du groupe Zendile, bah, elle était petite, on la connaît quand elle était haute comme trois pommes. Et du coup, maintenant, on joue ensemble, donc c'est super. Voilà. Et, c'est en fait, Vince avait recroisé son chemin, elle l'avait vu jouer, et notamment chanter, elle avait dit que carrément, ça l'avait énormément plus ce qu'elle faisait, son domaine artistique. Donc il avait dit, de toute façon, ça coûte rien d'essayer, quoi. Et, en sachant pertinemment à 80% que les choses se feraient, puisqu'elle nous connaît, au niveau caractère, on s'entend bien. Voilà. C'est déjà beaucoup de chemins qui sont faits. Il y avait aussi du commun, en fait, avant de partager la scène ensemble.
Toutes vos collaborations, en général, c'est ça ? C'est une histoire de rencontre plus que de recherche, en fait ? Ça s'est fait assez spontanément ?
Oui, on va dire... ouais, c'est ça. Il n'y a pas de recherche. On ne s'est jamais dit, nous, faut trouver quelqu'un et tout ça. C'est souvent... au gré des rencontres, qu'on s'est dit, ah, là, il y a quelque chose peut-être à faire ensemble et tout ça. Et c'est souvent Vince qui a souvent relevé ça. C'est comme ça qu'on avait rencontré Jerry. À part Jamika, où la rencontre avait été plus que fortuite parce qu'elle nous avait été presque imposée par le promoteur du concert qu'on avait fait à Londres, en fait. Et c'était très bien. C'est une bonne idée. Des fois, il faut des entremetteurs et pour te forcer la main. Et en l'occurrence, c'était ça, et aussi quand on avait collaboré avec les musiciens maliens, c'était aussi une commande. Après, on l'avait fait plus... les gens qu'on nous avait proposés, nous, on n'était pas chaud, donc on en avait choisi d'autres. Voilà. Mais autrement, pour ce qui est de Jamika, de Jean, Gomis, c'est des gens qu'on a croisés souvent en partageant la scène avec leurs groupes respectifs, et ça nous a plu, puis après on est revenu vers eux pour collaborer avec eux.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On se quitte sur Die Fabrik, un extrait de votre dernier album, Berlin, tiré du ciné-concert du même nom.
Merci à Thibault.